Le corps astral. Le corps astral, ça fait partie, avec les chakras d'ailleurs qui le composent, de ces termes ésotériques qui sont rentrés dans le langage courant, qui sont relativement appréciés du grand public. On ne sait pas exactement ce que la notion recouvre, c'est le principe de l'ésotérisme, c'est-à-dire c'est réservé à quelques initiés. Mais ça parle quand même au grand nombre. Nous savons d'instinct que notre corps n'est pas seulement matériel, physique. Nous savons que nous avons en nous quelque chose de céleste, d'astral. Nous ne sommes pas seulement des créatures terrestres, ou plutôt nous sommes des créatures terrestres avec une vocation céleste. Notre citoyenneté, dit Paul, se trouve dans les cieux. Tirés du sol, nous sommes appelés à l'éternité. Nous l'entendions il y a trois dimanches. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, c'est le physique. Pétri d'argile, le premier homme Adam vient de la terre, le deuxième homme, le Christ, vient du ciel. Et comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile, ce qui est une magnifique relecture de la création, de la Genèse. Quand le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise, l'argile du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Je le disais dimanche dernier, la création, le paradis originel, est parfaitement compatible avec ce que nous pensons de l'évolution. Il est parfaitement possible qu'à un moment de l'histoire, Dieu ait insufflé son esprit, rempli de grâce et d'esprit, de grands singes, qui sont devenus Adam et Ève. Il les a comblés de grâce, il les a élevés à la dignité d'être humain. Alors, Adam et Ève étaient-ils à l'origine au jardin de l'Éden ? Dans un halo de lumière. Était-ce comparable à ce que les apôtres ont vu au jour de la transfiguration ? Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de fait, Moïse et Élie apparaissent dans la gloire et s'entretiennent avec Jésus comme nous pouvons parler entre nous. C'est ça la réalité de notre corps. La réalité du corps, c'est justement cette capacité d'entrer en relation les uns avec les autres, de pouvoir communier les uns avec les autres, et, à contrario, la mort, la séparation de l'âme et du corps, c'est l'interruption que nous croyons temporaire de la relation. On n'en parle plus, c'est mort. Au commencement, à l'Éden, au paradis originel, le corps d'Adam et Ève était-il un corps astral, c'est-à-dire baigné de lumière, qui faisait que les animaux sauvages n'y touchaient pas? En tout cas, ce que nous savons, ce que nous croyons de foi, c'est que la chute a brisé la grâce, a brisé cette harmonie originelle avec Dieu, entre l'homme et la femme, entre nous, avec la création. Et voyez comment au jour de la transfiguration, Pierre, voyant Jésus avec Moïse et Élie, propose de dresser trois tentes. Et l'évangéliste dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. En cherchant à les retenir, pas seulement. En voulant les séparer, avec une tente pour chacun, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Autant il est compréhensible qu'il veuille les couvrir, bâtir effectivement une tente, parce que l'éclat est trop fort, exactement comme Moïse, redescendant de la montagne avec les tables de la loi, son visage rayonnait et il devait couvrir son visage. Autant il n'a pas compris en voulant les séparer. La grâce ne peut pas être ainsi éparpillée, disséminée. Elle ne peut pas d'ailleurs non plus être capturée, fixée, mais elle ne peut pas être éparpillée. Mes amis, de la réalité du corps, nous sommes probablement incapables d'en saisir la vraie lumière. L'Écriture dit qu'après la chute, Dieu a revêtu Adam et Ève de tuniques de peau. Expression tout à fait étrange. C'est un revêtu de tenue de... Ce corps de peau qui est le nôtre, que nous revêtons en plus de vêtements. Pourquoi l'auteur sacré a-t-il dit cela? Qu'est-ce que nous sommes devenus incapables de voir? J'ai un couple d'amis, deux artistes, qui viennent régulièrement, que je ne désespère pas de marier un jour religieusement. Ils suivent chaque année la préparation au mariage, depuis 4 ans. Alors, je les présente chaque début d'année, je dis, ce sont des redoublants, ça rassure les fiancés. Eh bien, ce sont des artistes, ils sont très sensibles à ce qui émane des personnes. Vous savez ce qu'on dit, les ondes positives, les ondes négatives, même tout ce qui peut se dégager de façon assez animale, des ondes animales. Et ils ont un terme que j'aime beaucoup, qui me fait rire pour parler de certaines personnes. Ils disent qu'une personne est très phéromonée. C'est un mot qui est un peu détourné de son sens. Vous savez, dans le monde animal, c'est la substance qui est émise par un animal à l'intention de ses congénères. Voilà ce que dit le dictionnaire, qui dit « La fourmi émet une phéromone pour prévenir ses congénères du danger ». Il ne s'agit pas seulement de sensualité, de séduction, d'affinité même. Il s'agit d'un des très nombreux langages de notre corps. Nous communiquons entre nous par toutes sortes de manières, toutes sortes de signaux, pas seulement un langage verbal, des signaux visuels, gestuels, olfactifs, mais surtout, nous en expérimentons sans cesse les contradictions, le désordre, toutes les interférences. J'ai une amie qui a passé une semaine chez sa fille pour l'aider après la naissance d'un nouvel enfant. Et puis, à la fin de la semaine, c'était un peu rude avec le gendre qui lui a remonté les bretelles. Et elle me raconte, elle me dit, « Je n'avais rien dit. » Bonne belle-mère. « Je n'avais rien dit. » Et il avait perçu tout ce que je pensais. Et elle ajoute cette phrase magnifique, elle dit, « À croire que mon corps parlait pour moi. » Ben oui, notre corps parle pour nous. Et qu'est-ce que la transfiguration, sinon la promesse, qu'en étant unis au Christ, en nous laissant conduire, unifiés par l'amour, non seulement nous ressusciterons avec un corps semblable à celui que les apôtres ont vu, un corps astral, disons comme un corps de lumière, mais un corps qui permet véritablement davantage que de communier par-delà l'espace et le temps. Nous avons tous en nous ce corps céleste que nous pouvons parfois percevoir de façon fugace, à condition de regarder avec les yeux de la foi et de l'amour. Il y a une très belle page du livre des Actes des Apôtres où Étienne, juste avant son martyre, comparait devant le grand conseil. Tous ceux qui étaient là avaient les yeux fixés sur lui. Son visage leur apparut comme celui d'un ange. L'expérience la plus fréquente, malheureusement entre nous, elle est exactement inverse. C'est tout ce que nous appelons justement ces ondes négatives, tout ce que nous pouvons ressentir d'une personne. Vous savez, le langage peut paraître très courtois, tous les signaux sont hostiles. Ce sont des ondes qui sont moins négatives qu'en réalité contradictoires. Et voyez dans cette scène l'attention qui est donnée, pas seulement au corps, pas seulement au langage, mais au groupe. L'ésotérisme ignore l'unité des trois, alors que notre foi en fait justement des piliers. L'ésotérisme multiplie les perceptions, les variables du corps, corps physique, céleste, éthéré, astral, enfin il y a toutes sortes de niveaux mentaux, peu importe. Ce qui finit par brouiller notre lien les uns aux autres, notre appartenance à un groupe, une communauté. La force de la transfiguration, ce n'est pas seulement de révéler que le corps humain est davantage que simplement matériel, physique, il est non seulement spirituel, mais il est appelé collectivement au divin. Nous entrerons ensemble dans le royaume. Nous retrouvons ceux qui nous ont précédés, qui se seront laissés attirer par le Christ. Lundi dernier, je suis donc allé sur le chantier d'Éole, porte-maillot, pour bénir une statue de Sainte Barbe. Il y avait le creusement d'un nouveau souterrain, c'est une belle tradition. Les ouvriers, 70 ouvriers, majoritairement musulmans. J'ai discuté ensuite avec eux. J'ai retrouvé ce qui avait fait le bonheur de ma vie professionnelle passée. L'esprit d'équipe. Vous savez, dans un monde dominé par l'individualisme, de retrouver dans certaines professions, dans certains lieux, plus encore que l'esprit d'équipe, l'esprit de corps. Ce qui manque le plus à l'Église. L'erreur de Pierre lorsqu'il veut effectivement séparer, faire une tente pour chacun. Ces travailleurs des tunnels souterrains sont à certains égards bien plus proches de la vraie lumière parce qu'ils savent que leur vie dépend les uns des autres. Dans les années 80, le père Bernard Brault, qui était un des grands prédicateurs de Carême, donnait deux conseils à ceux qui pouvaient être désorientés, pas seulement par l'ésotérisme, plutôt quand on rentre dans une librairie, déjà à l'époque, mais c'est vrai encore aujourd'hui, les rayons de livres, religion, spiritualité, ésotérisme, la diversité, la profusion. Et il disait, en face de toutes ces réflexions, ces théories, ces livres, deux conseils. Ou plutôt, il suffit de vous poser deux questions. Est-ce que ça m'aide à prier davantage? Comment est-ce que ça me parle de l'au-delà? La prière et l'au-delà. Ça résume tout. Ça résume la transfiguration. Jésus monte sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, il apparaît dans la gloire, avec son corps de gloire, celle qui nous est promise. Et le Père Beau disait, la prière, c'est accepter qu'on ne puisse plus expliquer sa vie sans faire appel à un partenaire, le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'au-delà, c'est admettre qu'on ne puisse plus expliquer sa vie sans tenir compte du but. Il ajoutait même qu'un catéchisme, une théologie qui ne nous parlerait plus du ciel, serait une théologie morte. La prière est l'au-delà. La prière communautaire, la nôtre ce matin. Accepter qu'on ne puisse pas prier Dieu sans être unis les uns aux autres par le Christ. Et l'au-delà, admettre que l'espérance qui nous est donnée, c'est celle d'être un jour enfin rassemblés. Il ne suffit pas de contempler le Christ transfiguré. Il faut écouter la voix du Père pour pouvoir rejoindre tous ceux qu'il a appelés et pris auprès de lui. Le corps, le langage et le groupe.